La Mosaïque des Lexiques, revue vivante, a lieu le premier vendredi de chaque mois au laboratoire d'Aubervilliers. Elle propose de croiser les jargons, comparer les lexiques, les langues, multiplier les adresses. En bref, on y cause, traduit, danse, chante et fête chaque fois le mois nouveau.
Mars 2022. Parler d'art. Pascale Murtin, chanteuse, prononce des mots dardar.
Tu parles d'art, se darrer, s'élancer. Au cours du XVIIe siècle, dardar, rapidement, tout de suite. Tu parles trop vite, tu parles dardar. Je me dare trop vite, dardard. Je m'élance avec quel dard. Mon daron, ma daronne, me pardonne.
Liv Schulman, artiste argentine, traduit à la volée une nouvelle de César Aira.
Je m'appelle Liv Schulman. Ce que je veux faire s'appelle Art Forum. Art Forum. La première fois que je fais cette performance, j'ai vécu un petit peu de répression. Performée par le curateur du cycle de performances où participait cette même performance. Nous étions encore une institution parisienne. Ma performance s'est limitée à traduire, en essayant d'émettre la meilleure interprétation possible, une nouvelle de César Aira. César Aira, écrivain argentin, ou grand écrivain argentin, c'est bien de dire que moi aussi je suis argentine, donc voilà, est né en 1949 en Coronel Pringles, est un auteur argentin qui a écrit plus de 100 livres. La spécialité de César Aira, c'est la fantasy, un certain usage du jeu, la liberté dadaïste, selon Wikipédia, et le mouvement continu dans ses narratifs. Peu connu en France depuis, après tout, ça me semblait une bonne idée, dans un contexte dans lequel il fallait parler de relations et d'art, de parler d'une nouvelle de César Aira sur un amour particulier. Moi, je n'avais pas l'intention, à l'époque, de faire une performance, dans un principe. Moi, j'étais traductrice. La nouvelle de Aira, le sacrifice, à l'intérieur du recueil de nouvelles Art Forum, parle de la relation d'amour qui porte Aira envers l'Art Forum. Vous voyez le magazine. Voilà, comme l'Art Forum n'arrive pas à Buenos Aires, et encore moins au quartier des Flores, César Aira la cherche partout. L'Art Forum de Aira représente le goût et la idiosyncrasie, que je crois que c'est la manière d'être d'une société. Peu importe que l'Art Forum soit des années 90, 2000 ou de plus de 30 ans, Aira les collectionne et il faut qu'il les ait toutes. Enfin, je parle au féminin d'un magazine, mais je sais que c'est magazine, c'est un magazine. Pourquoi ? Ça, c'est mon interprétation personnelle, mais pour moi, cette nouvelle parle d'une relation. Donc, d'une relation de désir du sud envers le nord. Maintenant, je vais traduire le sacrifice, la nouvelle d'Aira, qui est courte, enfin, relativement. Le sacrifice. Je me suis réveillée tard, bénie par les rumeurs de la pluie. Donc, ça a été puissant. La tombée de la température m'avait permis de bien dormir. Donc, Aira se réveille tard dans le quartier de Flores, dans son appartement de la rue Bonifacio. Et j'aurais pu continuer à le faire, mais j'ai regardé la montre qui laissait entrevoir qu'il était 8 heures du matin. Je me suis réveillée voluptueusement. Liliana a murmuré quelque chose en se réveillant. Et le chuchotement de la pluie était constant. Le pneumatique des voitures qui passaient sur le pavé bleu de la rue Bonifacio, produit ces humide que les habitants de certaines villes apprennent à reconnaître. Il était samedi, donc il n'y avait pas d'engagement ni d'horreur. Les enfants dormaient. Cependant, il y avait une sorte de léger signal d'alarme dans un coin de mon cerveau, aussi légère qu'elle a mis du temps à se rendre consciente. Et même quand il y avait déjà cette conscience, je ne me suis pas trop inquiétée. Parce que même quand il y a une sensation d'alarme, tout peut être bien. Ou parce que ça ne bougeait pas la tranquille routine de toujours. Je me déplaçais au ralenti, avec des longues pauses entre un mouvement et un mouvement, dans la pénombre verte de la chambre. Cette alarme, c'était ce que je sentais toujours avec les pluies d'été. C'était devenu un reflet conditionné. C'était lié à la chaleur et au fait de dormir avec toutes les fenêtres ouvertes. Donc l'alarme vient des pluies d'été. Ici, chez lluvia, pluie, verano, été, alarma, alarma, calor, chaleur. Mais tout d'un coup, Aïra commence à réfléchir et se rend compte que cette alarme, elle est un peu liée au fait qu'à la maison, il y a une énorme quantité de papier. Toutes dans la famille en étaient des lecteurs, il dit. Les bibliothèques étaient pleines. Les livres et les magazines s'accumulaient de partout. Il était inévitable que certains restent près devant la pluie, qui allait rentrer par les fenêtres ouvertes. Et on sait à quel point l'eau peut être destructeur avec le papier. Bon, maintenant, il se souvient qu'il y a quelques années, il a perdu un livre qu'il aimait parce qu'il a été mouillé, blablabla. Et il était définitivement abîmé. Et même quand j'ai pris tout le travail d'essayer du monde pour essayer de le sécher, le livre était gondolé et rugueux, comme j'ai écrit ici. Et je me le suis reproché avec amertume. Je ne suis pas collectionniste bibliophile et je ne me laisse pas porter par le perfectionnisme. Je suis très soigneux avec le livre. Bon, livre, voilà. Et en fait, après ce lointain accident, que c'était le seul qu'il a eu à regretter, il est devenu prudent avec le livre. Et cette prudence, comme toutes les choses en moi, a pris avec le temps un certain ton de manie. Ici, j'écris, ça fait un vague air de manie, un air maniaque, une manie. Voilà, il était maniaque maintenant. Un objet de préoccupation. L'objet principal de sa préoccupation, donc, était la fenêtre. L'objet principal de ma préoccupation était la fenêtre du salon qui donnait à la rue Bonorino. Cette fenêtre tournait le dos à mon canapé, à côté duquel, juste sous une fenêtre, una ventana, c'est la fenêtre, il y avait une table en verre qui avait toujours, près de la main, des magazines que j'étais en train de lire. Tant d'années étaient passées sans que je souffre aucune perte que ce matin, je ne me suis pas pressée de rien confirmer. Les fenêtres continuaient ouvertes. Les pluies d'été, si bienvenues, venaient avec une rumeur. La rumeur que j'avais écoutée ou entendue pendant mon sommeil et au moment où je me suis réveillée ne gardait pas des signaux de danger. En plus, c'était une rumeur psychologique que quand beaucoup de temps a passé, en train de se préoccuper pour une éventualité donnée, finissait par créer une sorte d'optimisme compensatoire qui expulsait ce fait dont on avait peur du réel. Donc, il y avait une expulsion du réel. Bye. Cependant, j'ai fait mon tour comme d'habitude avant de m'inquiéter pour autre chose. Et à la moitié de ce tour, j'ai vu, par la fenêtre, que le feuillage des arbres se secouait avec violence. Nous vivons dans un 12e étage, à hauteur des feuillages des arbres, vous voyez. Donc, il y a beaucoup d'arbres à Buenos Aires. Surtout dans le quartier de Flores et surtout dans la rue Bonifacio. Et je me suis sursautée de voir que les feuilles s'agitaient comme ça de façon très perceptible. Et je n'avais pas entendu le vent. Et là, c'est l'élément clé. Parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas entendu le vent, que je n'avais pas pensé à lui, mais que ce vent modifiait la direction de l'eau. Donc ici, j'ai remarqué le murmurement de la pluie, les chuchotements de la pluie, le sifflement sourd qui accompagnait la pluie et ce vent. Et tout d'un coup, je l'entendais comme si j'avais ouvert la chaîne stéréo, le canal du stéréo, voilà. Je l'entendais rétrospectivement parce que je l'avais entendu tout le temps. La masse verte des feuilles s'est penchée vers ma gauche en direction de Kamakwa, c'est une rue, ici. Et j'ai remarqué en dessous du seuil de la pensée, cela signifiait danger. Cela affectait la fenêtre derrière mon canapé. Il a eu plein d'images qui se succédaient dans sa tête. Même un inventeur des magazines qu'il était en train de lire ces derniers jours et qu'il avait à côté du canapé. J'ai couru au salon et quelque part, j'avais déjà deviné le pire, mais je n'aurais jamais pu deviner tout. Et ça, c'était lié à la simultanéité. L'esprit dévance à la vue dévance l'esprit. Les deux s'attendent l'une à l'autre pour effectuer une coïncidence qui ferait reculer le temps. Mais le temps était déjà passé. Et ce dont j'avais le plus peur était arrivé. Et la fenêtre était ouverte, l'eau était rentrée. Sur la table en verre, qui était restée exposée à la pluie, il y avait une pile de magazines, 3 ou 4. Dans ma simultanéité, je me suis souvenue que la semaine d'avant, j'avais acheté plusieurs magazines et je les avais lus. C'était une Art Forum, 2 Art in America et une Burlington Magazine. Et moi, j'avais une vraie passion pour ces magazines d'art qui me faisaient rêver, me stimulaient, m'inspiraient. Et ce n'était pas facile de trouver à Buenos Aires. Et précisément, ce dernier achat était le résultat des retrouvailles de Lazare après une longue saison de scarcité. Et ça avait été une bouffée d'oxygène pour mes poumons de snob. Ma préférée, c'était l'Art Forum, à laquelle je suis fidèle depuis des années. Et raconter mes aventures pour l'obtenir remplirait un livre. C'est le livre que nous sommes en train de lire. C'était mon luxe, ma fantaisie, mon fantasme, je ne sais pas quoi. Voilà. Et l'Art Forum était au top de la pile, qui s'était mouillée, au centre de l'œil. Inconsciemment, je la mettais moi-même toujours là, parce que c'était la meilleure vision de son couvercle. C'était bon pour... ça renforçait le moral. Pour ma perplexité, ce qu'il y avait sur le magazine, sur la pile de magazines, était una pelota, une balle, une sphère de la taille d'une balle de football et des couleurs brillantes, dont la prédisposition je reconnaissais sans reconnaître. Cette balle n'existait pas chez moi le jour d'avant. Elle était nouvelle. Elle n'avait pas pu entrer par la fenêtre parce que la fenêtre avait une protection des fils de fer. Elle s'était formée de l'intérieur. Et cette chaîne de raison a défilé dans mon cerveau quelques secondes pendant lesquelles je savais déjà qu'est-ce que c'était ce que j'étais en train de voir. Et je l'avais su depuis le début, mais je me résistais à le croire. La balle, ici, la pelota, c'était l'Art Forum. Sa surface était le couvercle qu'à ce moment-là avait une œuvre de Robert Mangold là-dessus. La même vision subliminale que pendant une semaine j'avais vue et qui m'avait réconfortée. Avec soin, je l'ai soulevée. Elle était froide et humide, super lourde. Elle ne dégoulinait pas, malgré le fait qu'elle était pleine d'eau. Et même si j'avais du mal à l'admettre, la seule explication, c'était qu'il avait absorbé la pluie jusqu'à en acquérir cette forme parfaitement sphérique. C'était un objet merveilleux, presque surnaturel. Quand j'ai finalement pu, j'ai regardé les autres magazines. Ils étaient secs, intacts. Ils n'avaient pas été touchés par une seule goutte. J'ai pu le voir en les soulevant. J'ai passé la paume de ma main sur les couvercles et sur les côtés. Toute l'eau qui était rentrée par la fenêtre avait été absorbée par l'art forum. Et donc j'ai compris que ça, c'était une décision, évidemment. Ce n'était pas nécessaire de faire appel à une catégorie aussi grandiose comme celle du surnaturel. Mais moi, j'avais remarqué que certaines choses, parfois... Non, pas certaines choses, que les choses, parfois, jouaient par décision propre. Elles avaient des capriches, des fantasmes, des cruautés, et aussi des tendresses et des générosités. Et quant à la forme parfaitement ronde qu'avait pris l'art forum, ça s'expliquait parce que l'art forum était presque parfaitement carré. C'était sa décision. C'était l'art forum qui s'était sacrifié pour moi, en fait, il dit. Qu'est-ce que ça aurait été qu'elle s'est sacrifiée pour les autres? C'était lié au fait qu'elle était en top de la pile? N'importe qui d'autre l'aurait fait ou pas? Il y avait quelque chose de très suggestif dans le fait que la Martyr était justement mon magazine préféré. Celui qui m'inspirait le plus. Et moi, j'aurais tout sacrifié pour elle. Mais elle s'était sacrifiée à moi, avec cet automatisme divin des choses. Moi, je dis elle parce que c'est magazine, c'est féminin en espagnol. Parce que moi, je l'aimais plus à elle qu'à tous les autres magazines ensemble. Un objet pouvait-il aimer un homme? Toute l'histoire de l'animisme s'est conformée dans cette question. Mais les anthropologues avaient essayé de répondre à cette question. Ils n'avaient jamais eu une occasion comme celle que j'avais, moi, de la formuler face à un objet qui aurait donné une aussi suprême preuve d'amour. Ce n'était pas impossible. Tous les objets étaient porteurs d'informations. Tous ceux, depuis les cathédrales jusqu'aux petites balles de mercurium, portaient en script leur histoire, leur propriété, leur manuel d'usage ou leur notice. Qu'ils le fassent dans une langue muette, parfois énigmatique, n'enlevait pas de leur éloquence. Il fallait juste les déchiffrer. Bon, là, il se souvient de un truc qu'il a vécu avec son père, donc c'est pas important pour nous. Mais ce que je voulais dire avec cette histoire de mon père, c'est que tout, même moi, était lié, était entrelié, même moi. Et j'étais ceux qui étaient le moins intra-relationnés du monde. Et pour moi, c'était une révélation. Et pas tellement parce que l'idée était nouvelle pour moi, mais précisément parce que je l'avais déjà pensée, plus d'une fois. Mais quand je l'entendais, je pouvais comprouver, prouver, que d'autres pouvaient le penser aussi, ce qui confirmait que tout était entrelié. Et peut-être le fait de la pluie, enfin le fait de cette révélation, se devait aussi à la participation de la pluie. Et cet truc lointain, d'où venaient les magazines, cette terre lointaine, enfin cette lointanerie, je ne sais pas comment traduire ça, d'où venaient les magazines, était aussi où se trouvait le présent. Elle était assujettie à mille hasards. Et la pluie était intraitable, capricieuse, réelle comme la réalité, c'est-à-dire comme le mur contre lequel s'estompaient les désirs ou les fantasmes. Et elle venait aussi de loin, amenée par le vent qui soufflait là où je voulais. Et quand il pleuvait, c'était le présent. Et tout s'est noué dans une grande toile de relations. 8 janvier 1983.
Reine Pratt, autrice, raconte une histoire de l'effacement.
Alors, avec l'invitation qui m'a été faite de participer à cette soirée, on m'a posé une question que j'ai oubliée, mais à laquelle j'ai répondu par un art du mensonge. En 5 parties. L'art, l'artiste, l'artisane, l'artisanat et le génie. À l'entrée d'un grand musée de Tokyo, un panneau avertit la visiteuse occidentale. Ici, nous ne distinguons pas l'art de l'artisanat. En 2019, l'exposition du musée du Louvre « Figure de l'artiste » datait de la Renaissance, la rupture, qui avait sorti l'artiste de l'anonymat de l'atelier. L'œuvre jusqu'ici collective allait être signée. Plus tard, l'artiste se proclamait maudit ou se voir déifié comme génie. Tandis que les autrices, peintresses, metteuses en scène, chercheuses et clergesses, passeraient à la trappe d'une histoire décidément masculiniste. Baptiste Morisot décrit très bien, quoique au seul masculin, l'émergence parallèle de la figure du scientifique. Je le cite, « Nous sommes, depuis les théoriciens grecs, les clercs médiévaux et jusqu'aux chercheurs de métiers actuels, la seule civilisation qui a autonomisé et confisqué le champ de l'enquête en professionnalisant le métier d'enquêteur, on appelle cela un scientifique ou un expert, aspirant tout le savoir légitime comme produit de l'activité de quelques-uns. C'est une confiscation d'une grande violence qui invisibilise que tout le monde, dès qu'il est en prise avec la vie, enquête. L'exclusion de la scène artistique de celles et ceux qui n'ont pas le bon profil est aussi d'une grande violence. La liberté de création, la fiction, la vraie vie. Au XXIe siècle, l'Observatoire de la liberté de création, émanation de la Ligue des droits de l'homme, lequel n'est pas la femme, nous invite à distinguer l'homme de l'artiste. L'individu ainsi dissocié pourra recevoir ad libitum la reconnaissance de ses pairs et les hommages de la foule, quels que soient les crimes qu'il aura perpétrés dans la vraie vie. L'Observatoire défend aussi la distinction entre liberté de création et liberté d'expression, laquelle est garantie à tout citoyen, pas d'allusion à une possible citoyenne, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi, selon l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme. Du respect de cette loi commune, l'artiste se trouve ainsi exonéré, exonération rendue légitime depuis 2016 par une loi nouvelle, étrangement intitulée « Loi sur la liberté de création, l'architecture et le patrimoine ». L'œuvre étant fiction, elle garantirait la parfaite innocuité du propos de l'artiste, quel que soit le langage utilisé, écrit, parlé ou en image. Or, les mots tuent. Mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur du monde, précise Sophie Gourion sur son site éponyme « Les mots tuent ». Convenir que le monde de l'art nomme mal est évidemment polysémique. J'ai assez parlé ailleurs des nominations à la tête des institutions culturelles, dans les distributions de prix et dans les programmations qui en sont le corollaire et l'antichambre. Auscultons plutôt ici le vocabulaire qui induit de tels choix. Du talent, forcément inné, à la fabrique des talents. L'artiste est défini par son talent, seul garant de la qualité de l'œuvre produite. De ces deux notions, les inspections du ministère de la Culture tentent régulièrement de donner une définition qui objectiverait les critères de sélection. Les conclusions de ces remue-ménages collectifs sont tout aussi régulièrement remises à plus tard. Seule conviction, le talent serait inné, distribué avec parcimonie à quelques-uns et en quantité vraiment minuscule à très peu d'une. Or, le talent, fût-il déposé dans votre berceau à la naissance, ne fleurira que s'il est très tôt détecté, cultivé, encouragé, que des moyens soient consacrés à son épanouissement, un lieu où travailler, du temps à y consacrer, et pour les arts de la scène, des équipes, des moyens techniques, des outils promotionnels, bref, de l'argent. Ces moyens sont très inégalement répartis selon qu'on est femme ou homme, blanche, noire, jaune ou autre, maigre ou grosse, petite, grande ou très grande, issue de classes moyennes ou supérieures ou de classes qu'on ne sait même plus comment nommer, occidentalisée ou accrochée au culte global, etc. Ainsi, nous nous autoriserons à considérer le talent comme un cache-sexe. Dit en langage universitaire, ça donne « sous le talent, La classe, le genre, la race. Titre générique d'un ensemble d'études portant sur les processus de sélection dans les écoles supérieures d'art. Dans son article « Ce que le talent occulte », Joël Lélier définit le talent comme « principe de légitimation des inégalités ». À bien nommer les choses, elles s'éclaircissent et ouvrent la voie au bonheur du monde. Des usages lexicaux paradoxaux qui informent nos pratiques et nos mentalités. Le théâtre, comme la musique et la danse, est enseigné dans des conservatoires, organisés en disciplines, chacune régie par des conventions et obéissant au code de la représentation. Cet encadrement lexical de la production artistique éveille le doute sur la pertinence du terme récurrent de « création ». La notion d'emploi, définitivement abolie au sein du Conservatoire national supérieur d'art dramatique sous la direction de Claire Lanne d'Arcueil, continue d'exercer sur nos scènes son empire discriminant. La jeune première est toujours nécessairement jeune, mince et blonde, c'est mieux. Une femme en surpoids ne jouera jamais Juliette. Si elle est noire, elle aura quelques chances de se voir proposer des rôles de femme de ménage, de nounou ou de maman. Si elle est blanche, ce sera plus compliqué. Cacher ce gras que l'on ne saurait voir. Si elle est un homme, elle pourra être balayeur, dealer ou agent de sécurité. Distribuer un homme noir dans un rôle de père de famille ferait signe, m'a-t-on dit. Ainsi, spectatrices de théâtre, nous sommes censés adhérer à l'idée que dans ce pays, les pères de famille sont tous blancs et qu'on ne tombe pas amoureuse au-delà d'un certain poids. Le miroir déformant que nous propose la représentation théâtrale crée, en effet, un monde qui n'a rien à voir avec le réel, un monde dans lequel nous ne nous reconnaissons pas, qui ne nous fait pas rêver, un monde racorni, réduit à l'imaginaire défaillant de nos créateurs. Une culture de l'effacement, le retournement du stigmate. La culture de l'effacement est à l'œuvre dans notre pays depuis quelques centaines d'années. Elle agit au présent, mutile nos mémoires, paupérise nos scènes, réduit nos imaginaires, empoisonne notre quotidien et tue, du moins artistiquement, celles et ceux qui n'y sont pas admises. Comment s'y est-on pris pour en arriver là ? La chasse aux sorcières, la traite africaine, les conquêtes coloniales et leur cortège de violence ont certes joué leur rôle. Mais c'est celui de la langue française que je nous invite à examiner ici. Dans son livre « Provincialiser la langue, langue et colonialisme », Cécile Canu nous explique comment les conquêtes coloniales se sont appuyées sur un impérialisme linguistique rabaissant au rang de dialecte les langues africaines. De même, les langues de nos régions françaises avaient été qualifiées de patois, le parler d'Île-de-France étant seul élevé au rang de langue de la République. Quant à l'éradication des femmes de l'histoire, comme de l'histoire et de l'actualité de l'art, outre l'interdiction qui leur fut faite de signer, elle a été grandement facilitée par la masculinisation de la langue française, opérée d'une part par l'appauvrissement du vocabulaire. Interdiction du mot « autrice », par exemple, au moment où les femmes, enfin admises sur les plateaux de théâtre, ont pu devenir « actrices ». Oubli des règles, un verbe se terminant par « de-t-r-e » fait un masculin en « teur » et un féminin en « teuse ». Ainsi, une metteuse en scène a encore du mal à s'imposer. Évacuation de mots jugés dissonants, peintresse, professoresse, philosophesse. Et autres techniques minorantes, « il parle, elle parlote », slame Louise Bourgeois en 1995. D'autre part, l'imposition de règles de grammaire la plus cash étant le masculin l'emporte sur le féminin en raison de la supériorité du mâle sur la femelle. Et vous voulez que satisfaite je le sois ? Eh bien non, je ne la suis pas.
Galien Desjans, éditeur, présente le groupe Fax Bank et leur correction acharnée des communiqués de presse artistiques.
Les laboratoires de Bervilliers m'ont proposé de présenter cet ouvrage que j'ai sorti l'année dernière avec deux autres personnes. C'est un très gros ouvrage qui m'a pris plusieurs années de travail pour le sortir, malgré la simplicité de ce livre. Donc je vais essayer de vous en parler en 10 minutes. Je vais sûrement échouer, mais je vais essayer de vous montrer quand même Enfin, je vais essayer de ne pas que parler, mais de vous montrer des choses aussi et d'essayer de vous expliquer quel est le principe de ce livre, qui est en fait une sorte de recueil de 300 textes annotés qui constituent une œuvre qui a été réalisée dans les années 1998 et 1999 par un collectif anglais qui s'appelle Bank. Composé à l'époque de 3 artistes, John Russell, Simon Bedwell et Millie Thompson. Et donc ces 300 textes sont réunis dans cet ouvrage. Il s'agit donc d'un corpus. Ces 300 textes, en fait, sont des communiqués de presse qui ont été produits à cette époque-là, donc entre 98 et 99, par des galeries essentiellement londoniennes et new-yorkaises, et qui ont été donc collectées systématiquement par ce groupe d'artistes, qui s'est mis à les corriger, en fait, en relevant systématiquement toutes les erreurs qu'ils pouvaient trouver, notamment les erreurs typographiques, les fautes d'orthographe, mais aussi et surtout, évidemment, le jargon, hein, enfin, aussi les gens qui sont, qui, enfin, si vous avez déjà eu l'occasion de lire ce type de production littéraire, voilà, on est quand même, enfin, souvent on a affaire à un certain nombre de récurrences de termes, de jargon, de verbiage, souvent insupportables. Donc ils ont eu le courage de se confronter quand même à ces 300 documents. C'est un exercice qui est assez compliqué, qui relève presque du, enfin, qui est un exercice ambivalent, puisque qui relève à la fois de la, enfin, il y a une forme de jouissance qui, à mon avis, passe par cette dimension sarcastique, mais la jouissance passe aussi par la dimension masochiste de se confronter donc à cet exercice, à ce travail, parce que ça demande du temps. J'ai oublié de préciser que ces documents étaient ensuite retourné par fax aux galeristes respectifs. Voilà. On terminera. Enfin, je terminerai ma présentation par en donnant la parole en fait aux galeristes eux-mêmes, parce que donc il y a évidemment c'est une production qui a énervé énormément un certain nombre de galeristes. Alors peut-être pour recontextualiser cette œuvre. Donc, qui est Bank ? Bank, comme je l'ai dit tout à l'heure, est un groupe d'artistes londoniens qui se rencontrent dans les années 80, fin des années 80, début des années 90. Ce sont des étudiants en école d'art, donc ils sont en train de terminer leur école d'art à ce moment-là et qui savent pas exactement ce qu'ils vont faire. Donc, ils décident de se regrouper et ils vont commencer à faire des expositions à Londres, des expositions collectives dans des lieux désaffectés dans l'est londonien. Et petit à petit, au début des années 90, ils vont louer ensemble un atelier qu'ils vont transformer en une sorte de galerie, ce qu'on appelle un espace alternatif, en gros, dans lequel ils vont faire toute une série d'expositions pendant toute la durée des années 90, en invitant un certain nombre de personnes, alors des étudiants, des personnes plus connues de la scène londonienne. Ces expositions sont assez... la série de cette exposition... Alors, je vous ai montré aucune image, j'avais pas le temps, j'ai décidé de me focaliser sur cette pièce, mais cette série d'expositions que Bank réalise dans les années 90 est assez jubilatoire. La plupart des expositions sont complètement absurdes, les thèmes et les titres sont absurdes, c'est souvent une sorte de bric-à-brac, mais c'est assez intéressant parce que donc c'est une manière par l'absurde de à la fois de se moquer du format de l'exposition thématique qu'on peut voir dans les centres d'art aujourd'hui, mais en même temps de renouveler par l'absurde ce format de l'exposition. Alors Bank va va adopter une posture spécifique, donc au milieu des années 90, qui est qu'on pourrait qualifier de l'outsider ou du loser. C'est-à-dire qu'ils vont notamment ils vont se positionner contre ce phénomène qu'on a appelé les Young British Artists, qui émerge au début des années 90, donc en même temps qu'eux, qui est en gros, pour le dire vite, une génération d'artistes, de jeunes artistes qui sortent eux aussi d'écoles d'art, d'artistes anglais, et qui vont conquérir le marché de l'art international. Avec l'aide notamment d'un galeriste qui s'appelle Saatchi, qui était aussi un publicitaire qui a fait la campagne de com de Thatcher. L'artiste le plus connu qui sort de cette génération-là, des Young British Artists, est peut-être Damien Hirst, dont vous avez peut-être entendu parler. Eux vont décider de se positionner comme des anti-Young British Artists, c'est-à-dire qu'ils vont adopter une posture très provocatrice, très arrogante, très potache, voilà. Et ils n'auront de cesse de s'attaquer à travers leurs expositions ou leurs actions aux mécanismes et aux structures du monde de l'art, avec souvent beaucoup d'humour, mais aussi beaucoup de méchanceté, et parfois aussi avec un peu de mauvaise foi, et vont s'attaquer donc aux structures, aux formats, aux statuts, hein, le statut de l'artiste, le statut du galeriste, le statut du curateur qui déteste, et ils vont aussi surtout s'attacher à déconstruire les modes de communication de l'art contemporain. Vous avez un exemple de cette production de l'un de ces 300 communiqués de presse qui participent donc de cette démarche et qui en quelque sorte constituerait presque l'aboutissement de cette démarche, une démarche comme vous pouvez le voir très antagoniste parce que on verra tout à l'heure que un certain nombre de galeristes n'ont pas du tout supporté cette déconstruction de leur langage. Moi, ce qui m'a intéressé, en tant qu'historien de l'art et en tant aussi que commissaire d'exposition, peut-être aussi dans une posture qui est la mienne étant peut-être aussi un peu masochiste, c'était de s'intéresser à cette production littéraire qui est le communiqué de presse. Le geste de banque peut paraître extrêmement potache. On a tous eu en fait l'idée à un moment en rentrant dans une galerie ou dans un musée ou dans un centre d'art de corriger l'un de ces documents ineptes. Ce qui est intéressant chez Banque, c'est qu'on passe du geste potache à un vrai travail de recherche, hein, puisque en corrigeant ces 300 documents par l'ampleur, Banque va créer un corpus, un véritable corpus au sens méthodologique du terme, c'est-à-dire qu'il va donc transformer ces documents sans qualité, hein, puisque ce sont des documents qui sont destinés à être jetés à la poubelle le plus rapidement possible, en un objet d'étude, un objet d'étude qui n'est pas si absurde que ça, à partir du moment où on le considère comme étant finalement en quantité la plus grosse production littéraire que produit le monde de l'art aujourd'hui. Et donc c'est intéressant de questionner ce format pour en faire une étude de texte afin de comprendre à travers ces textes en gros les mécanismes de légitimation qui sont mis en œuvre par les institutions privées et publiques au sein du monde de l'art. Ou pour le dire autrement, la lecture de ces faxbacks, parce que donc cette série, ces documents s'appellent des faxbacks, met en évidence un monde de l'art globalisé qui se construit comme une entreprise de légitimation et qui, comme finalement n'importe quel secteur marchand au sein du système capitaliste, va réduire sa production à finalement des stratégies de communication, en l'occurrence, qui sont souvent maladroites ou hypocrites ou absurdes. Ce qui était compliqué, voilà, j'ai 10 minutes, il y a 300 faxbacks, on n'aura pas le temps de rentrer dans chacun de ces faxbacks. Il y a un livre qui existe, vous pourrez le consulter à la fin. Et donc, je me suis demandé en fait comment finalement Vous parlez de ça, et en fait, je me suis dit que... Alors, je vous en montre quelques-uns, quand même. Je vous en montre quatre. C'est quand même assez drôle, et c'est assez roboratif de voir ça. Et c'est, donc, c'est toujours sur le même principe. Il y a donc des annotations, des marginalia, hein, comme on pourrait dire. Une volonté de s'approprier un discours dominant et de s'immiscer dans ce discours dominant pour le critiquer. Il y a toujours une appréciation générale et une note sur 10 qui généralement est déplorable et un tampon, donc le tampon qui a été fabriqué par Bank, donc ce The Bank Fax Back Service, comme si Bank était en quelque sorte une entité entrepreneuriale ou un prestataire de services qui proposait donc aux galeristes d'améliorer leur production textuelle. Alors, donc du coup, je me suis dit que j'allais pas vous montrer des faxbacks, même si je vous en montre quelques-uns, mais que j'allais plutôt vous montrer ce qui n'apparaissait pas dans l'ouvrage, c'est-à-dire, parce qu'on a décidé avec les personnes avec qui j'ai fait ce livre, qu'on allait vraiment se limiter au corpus le plus simple, c'est-à-dire les fax que Bank envoie aux galeristes. Du coup, je me suis dit que j'allais vous montrer, je sais pas combien de temps il me reste, mais les réponses des galeristes, parce que du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que donc ils envoient ces fax et ils ont reçu un certain nombre de fax et de coups de fil de galeries londoniennes, mais aussi américaines, qui leur ont laissé notamment des messages sur leur répondeur téléphonique. Donc à cette époque-là, les anciens membres de Bank m'ont raconté qu'ils n'osaient plus décrocher le téléphone de peur de se faire insulter. Alors, les qualités sont assez mauvaises parce que donc c'est du fax, voilà. Alors, il y a différentes. Ce qui est intéressant, c'est de voir les différentes typologies de réponses. Ça va donc de la réponse amusée qui essaye de rentrer dans la blague. Donc, généralement, c'est merci beaucoup pour votre aide. Seriez-vous d'accord pour corriger les prochains communiqués de presse? À des réponses beaucoup plus insultantes, très outragées. Et également, il y a aussi la catégorie des réponses qui essaye d'être aussi sarcastique que les membres de banque, et souvent c'est un sarcasme assez maladroit et assez revanchard, assez désagréable, où on leur reproche souvent d'être des artistes ratés ou des choses comme ça. Et c'est assez intéressant parce que évidemment, ce sur quoi joue Bank, c'est sur la question de l'antagonisme. Moi, ce qui m'a intéressé en travaillant là-dessus aussi, c'est ça m'a permis aussi de réfléchir peut-être, sans faire de trop grosses généralités, mais sur finalement ce qui se passe dans les années 90. Et finalement, peut-être, on peut concevoir. Bon, là, je vais peut-être me lancer dans des généralités que Bank pourrait critiquer, mais un changement de paradigme et finalement donc les années 90, on passe dans un monde plus consensuel, plus réticulaire et où finalement les formes antagonistes sont mises à l'écart. Ce qu'on peut voir aussi dans le monde de l'art, et pour moi, Bank est une manière d'utiliser l'antagonisme pour dévoiler les doubles discours institutionnels. Et je trouve que la manière insultante dont les galeristes répondent à Bank est assez emblématique. Donc, quelques exemples. Alors, intéressant, donc la réponse du galeriste intervient en bas du message, donc « Glad you have so much free times ». C'est intéressant, cette notion de temps, parce que c'est un reproche que les galeristes leur font souvent. Vous devez vraiment être des artistes ratés pour avoir autant de temps libre, pour pouvoir perdre votre temps à nous emmerder avec vos commentaires. Ce qui est intéressant, c'est voilà cette notion de temps. Effectivement, c'est du travail. Bank, d'une certaine manière, fait une sorte de travail de chercheur, non rémunéré en l'occurrence. Mais ce qui est intéressant, c'est que les galeristes eux-mêmes prennent sur leur temps libre pour répondre à Bank, tellement ils sont scandalisés par la réponse. Bon, là, plutôt basique. J'aime bien celui-là aussi. Alors, Fagan Contemporary, galerie new-yorkaise. Donc, vous allez voir la réponse. Eux ont vraiment utilisé beaucoup de temps. C'est-à-dire que ils ont repris les commentaires de Bank, les ont numérotés c'est presque touchant, d'une certaine manière. Voilà. Bon, j'ai pas le temps de... Voilà, là, il y a pas mal d'insultes qui interviennent sur ce document. Ça, c'est intéressant. Donc, c'est Gavin Brown. Donc, là, vous avez le commentaire de Banks qui dit... bon, c'est des expressions en anglais, donc un peu difficile à traduire, mais en gros, il dit, voilà, ce communiqué de presse est un peu gênant, c'est un peu une donc, expression anglaise, dad at the disco, papa en boîte de nuit, quoi. Et Gavin Brown leur répond un truc assez salaud en leur disant, enfin voilà, c'est, vous n'avez que ça à faire, les artistes anglais qui êtes perdus sur votre petite île, voilà, ridicule. Bon. Voilà, thanks for your help, help yourself and peace off. Bon, là, c'est plutôt sympathique. On sent que c'est des... Donc, c'est The Approach. On sent que c'est plutôt des potes de banque qui ont décidé de jouer le jeu. Là, il y a une très longue réponse. Alors, là, c'est aussi Gavin Brown, donc qui fait une réponse aussi très scandalisée. Qui essaye d'être plus méchante que Bank et qui, en gros, les félicite d'avoir tenu délibérément à être des artistes outsiders et sans succès et qui, en gros, leur reproche d'avoir, d'endosser une position de jugement moral de flic. Et... alors ça, c'est intéressant. C'est donc Bank à un moment décide d'exposer les originaux. Donc ils vont faire une exposition à Londres dans leur espace. Ils vont être invités ensuite à New York dans une galerie new-yorkaise à exposer les Faxback. Et évidemment, il y a un de leurs amis qui s'amuse à leur corriger leur communiqué de presse. Voilà. Pour terminer, je voulais donc du coup vous faire entendre. Ça, c'est Bank, les trois membres de Bank. Je voulais vous faire entendre le répondeur automatique de deux galeries, Christine Rose Gallery et Fagan Gallery. Alors, le son est très mauvais. Si vous voulez, je vous traduirai à l'issue de la diffusion. Translate. Donc le premier commentaire donc de Christine Rose Gallery, c'est « Bonjour, je vous appelle de la part de la galerie Christine Rose, nous avons reçu votre fax et nous voulions juste vous faire savoir que nous avons en fait un certain dégoût pour les commentaires que vous avez faits. Plus important encore, nous avons été très très impressionnés par vos commentaires intelligents et par le fait que quelqu'un de cette petite île pitoyable, appelée Angleterre, prenne le temps et l'énergie de sa vie quotidienne pour faire quelque chose d'aussi insignifiant. Et plus important encore, nous avons pensé que si quelqu'un de votre calibre voulait faire quelque chose de significatif, il mettrait son énergie dans quelque chose qui ferait au moins une petite différence sur la planète. Nous pensions à un artiste complètement obsessionnel ou vraiment énervé, mais l'un ou l'autre, vous savez, le karma est un boomerang, il reviendra et vous giflera un jour. Donc j'espère que vous avez une vraie vie, prenez soin de vous. Et donc la deuxième, bon vous avez sûrement compris pour la teneur, l'énergie du truc. Donc j'appelle pour les fax back, j'ai lu votre lettre, s'il vous plaît ne perdez pas votre temps avec cette merde d'adolescent, vous êtes vraiment en train de me faire chier, ne nous faxez pas vos communiqués de presse avec vos commentaires stupides et ineptes, allez vous faire foutre.
Antoinette Ohanessian et François Ifleur esquissent une étude de vocabulaire.
L'histoire de l'art est une liste interminable de noms propres.
De multiples prétendants et candidates y mènent une compétition sauvage pour retenir mon attention. Comment m'orienter dans la foule des œuvres et des individus ? Quoi retenir ? Qui admirer ? Eh bien, certaines publications semblent pouvoir m'aider à choisir. Elles sélectionnent pour moi des artistes, leur attribuent une valeur et les placent sur l'échelle de la renommée. Mi-informatif, donc mi-publicitaire, ces textes ne sont en général pas signés, ce qui incite à penser qu'ils expriment une opinion universelle. Véritables influenceurs anonymes, ils contribuent à un organigramme de la culture officielle.
Nous improvisons chercheurs, chercheuses, nous avons examiné notices, catalogues, programmes, dont le magazine Code Couleur, qui présente les expositions du centre Georges Pompidou, de 2002 à 2021.
Alors, dès la première lecture, la fréquence de certains mots ou expressions nous a sauté aux yeux. Nous nous arrêterons ce soir sur deux termes particulièrement récurrents, qui sont figure et représentant. Une figure, d'après le petit Robert, est une personnalité marquante. Marquante signifiant qui laisse une trace dans la mémoire, qui impressionne. Une figure, personnalité marquante, est donc une personnalité qui laisse une trace dans la mémoire.
Le mot « représentant » désigne en revanche chaque membre d'une même espèce. Chaque vache, quelle qu'elle soit, est une représentante de l'espèce bovine. Chaque mouton, quel qu'il soit, est un représentant de l'espèce ovine. En mathématiques, tout élément quelconque d'un ensemble est un représentant de cet ensemble. Celui-ci, également celui-là, celui-là aussi, et même celui-là. Tout artiste est une ou un représentant de l'art de son époque. Par le terme « représentant », je reconnais simplement son existence, sans me prononcer sur la qualité de l'œuvre ou sa notoriété. On est représentant que l'on soit connu, inconnu, considéré comme talentueuse ou médiocre.
Tandis que le titre de figure accorde d'emblée une valeur particulière au représentant qu'il vient en quelque sorte tirer du lot.
Il existe d'innombrables représentants, parmi lesquels ne sont reconnus qu'un certain nombre de figures.
Toute figure reste, par essence, un représentant.
Mais un représentant n'est pas nécessairement une figure.
Figure se voit souvent accompagnée d'un adjectif. Et l'adjectif le plus employé est très probablement « majeur », qui signifie « plus grande » ou « plus importante que les autres ». Une figure majeure est donc une personnalité marquante, plus importante que les autres. Et c'est un titre particulièrement répandu. On rencontre quantité de figures majeures dans les catalogues. Nombreuses sont les personnalités marquantes, plus importantes que les autres. Telle ou telle est, par exemple, nommée figure majeure de la modernité. Telle ou telle autre, figure majeure de l'art du XXe siècle. Ou, plus modestement, figure majeure de l'art des 50 dernières années. Figure majeure de sa génération.
Les figures se côtoient dans des domaines plus ou moins spécialisés. Figure majeure de l'art contemporain. Figure majeure de l'expressionnisme abstrait. Figure majeure de la littérature française de la deuxième partie du XXe siècle. Et en rétrécissant encore le champ, figure majeure au Québec. Figure majeure de l'avant-garde chinoise des années 80. La recherche d'éventuelles figures mineures a abouti à Augustin le Sage. Peintre et ouvrier dans une mine de charbon, élu figure majeure de l'art brut. Sans doute l'unique figure majeure mineure de l'histoire.
On rencontre également beaucoup la figure centrale, autrement dit la figure autour de laquelle gravitent tous les autres éléments. Beaucoup de figures occupent une place centrale, quelle que soit l'ampleur du cercle concerné.
Figure centrale de la scène artistique contemporaine.
Figure centrale de l'abstraction.
Figure centrale du paysage de la danse française.
Figure centrale de l'art conceptuel ou figure centrale de la postmoderne danse américaine.
Nous avons aussi la figure incontournable. Takashi Murakami est, d'après un magazine, une figure incontournable.
Nous avons la figure importante, la figure phare, la figure clé. Marcel Duchamp est, par exemple, une figure clé.
Nous avons la figure essentielle, la grande figure, l'immense figure, la figure emblématique.
Nous avons la figure tutélaire, la figure magistrale, la figure mythique, comme par exemple Lucian Freud, figure à la fois mythique et magistrale de la scène artistique britannique.
Maggie Marin est une figure de proue. John Baldessari est une figure de proue.
Sans oublier la figure marquante, autrement dit la personnalité marquante, marquante.
Et un peu en retrait, la figure singulière, la figure discrète, la figure à part, comme Étienne Martin, figure à part du monde de l'art parisien. À l'usage de l'adjectif vient s'ajouter celui du superlatif, le plus, la plus, qui vient suggérer une hiérarchie.
Asger Jorn est l'artiste danois le plus important du XXe siècle.
nous dit-on page 45 du magazine.
Mais afin de ménager la concurrence et pour laisser de la marge aux éventuels ex-échos, le superlatif se verra prudemment modulé. On dira plutôt l'une des plus, l'un des plus.
L'une des figures magistrales de l'art de l'après-guerre. L'une des figures clés de la littérature du XXe siècle. L'une des plus grandes figures de la création de notre temps. L'une des figures les plus célèbres de l'aventure de la modernité. L'une des figures les plus influentes de sa génération.
On trouve sur le bassin de l'Arsenal, à Paris, l'œuvre de l'un des représentants de la sculpture française abstraite des années 50.
L'une des figures les plus marquantes de la danse contemporaine. L'une des grandes figures de la seconde moitié du XXe siècle. L'une des figures les plus intéressantes de la scène artistique des Balkans. L'une des figures les plus controversées du marché de l'art contemporain.
Il s'agit manifestement de trouver une place.
Une place sur la scène.
La scène artistique, la scène contemporaine, la scène artistique contemporaine.
Il s'agit de faire circuler des noms.
Notons qu'un degré suffisant de célébrité dispense de l'usage du prénom. Van Gogh n'a plus besoin de Vincent. Duras n'a plus besoin de Marguerite.
La suppression du prénom est un bon procédé pour faire grimper d'un cran dans le classement.
Beckett n'a plus besoin de Samuel.
On parlera du travail de Hoanessian, alors que celle-ci a encore besoin d'Antoinette.
On parlera de la démarche de Hifler, qui, même accompagné de François, peine à être connu. Grâce à ce stratagème, la suppression du prénom, on peut toujours tenter de faire entrer de force de simples représentants dans la cour des grandes figures.
Thank you.